BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprises. BFM Academy saison 11 avec Nicolas Dose.
Bonjour, bienvenue BFM Academy, la suite de ces terribles matchs d'entrepreneurs qui nous passionnent toutes les semaines. Il y en a eu trois déjà dans cette saison 11, on va en vivre un quatrième aujourd'hui. Ils sont deux entrepreneurs, mais pour un peu moins d'une heure, il n'en restera qu'un. Il y en aura encore un cinquième la semaine prochaine. Après, on va rentrer dans une nouvelle phase de cette saison 11, je vous raconterai la suite. Donc c'est parti, voilà, BFM Academy, le premier concours d'entrepreneurs à la radio et à la télé. Oui, on n'en avait que trois déjà, alors on a trois qualifiés pour la deuxième partie de la saison. Il y a Tilki, le logiciel tracker, qui vous dit comment est-ce que vos offres commerciales sont perçues par vos éventuels prospects. On a Medavise, qui est ce site de téléconseil médical 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un véritable médecin qui répond à toutes vos questions. Et puis on a Julie Desk, la fameuse intelligence artificielle qui est devenue votre assistante personnelle et dont vous ne pouvez plus vous passer, qui cale tous vos rendez-vous par mail. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux chefs d'entreprise, mais cette quatrième édition de la saison sera arbitrée par Alain Bozetti. Bonjour Alain.
Bonjour Nicolas.
D'abord, je vais saluer Eve Chégaret. Bonjour Eve.
Hello.
Bon, il va falloir en sélectionner un quatrième aujourd'hui. Et la semaine prochaine, c'est votre tour. Hein. On les présentera tout à l'heure. C'est vous qui vous y collez. Vous devrez départager nos deux derniers candidats de cette saison 11. Bienvenue Alain Bozetti.
Merci Nicolas.
Vous connaissez la règle, à la fin de cette émission, une fois qu'on aura fait le tour du business de nos candidats, vous serez permis de leur dire un petit peu ce que vous pensez d'eux, vous devrez choisir.
C'est pas le moment que j'ai préféré, mais...
C'est pas le moment que vous allez préférer.
Bon, je vais assumer.
Vous allez voir, je vous les présente dans un instant, mais avant, je vais quand même vous rappeler exactement qui est Alain Bozetti, ça a été la règle du jeu depuis le début de cette saison. Petit portrait d'Alain Bozetti, et ensuite je vous présente les deux candidats de la semaine.
Alain Bozetti, sa spécialité, la stratégie.
Je suis Alain Bozetti, le président du groupe de communication En Personne, et nous créons cette année le premier salon virtuel pour les entrepreneurs. J'apporte à la BFM Academy, un, mon immersion parmi les entrepreneurs depuis plus de 20 ans avec le salon SME, qui est le salon des entrepreneurs, des indépendants et de tous les audacieux, et deux, mon expérience d'accompagnement de dirigeants de PME et de grandes entreprises en stratégie, marketing et communication.
Ils maîtrisent tous les sujets de l'entreprise, le côté financier, le côté humain, le côté vente et marketing, il connaît tout.
Alain, c'est la quintessence de l'entrepreneur. Il crée des trucs sans arrêt, des trucs nouveaux, et ça marche à tous les coups.
Il a un sens inné, positionnement d'une boîte sur son marché, de comment elle peut communiquer, comment elle va se faire connaître, prendre le lead sur ses concurrents.
Je suis curieux, créatif, combatif, et j'aime rebondir. Je suis un kangourou.
Il a l'air comme ça, très très gentil. Mais attention, il tranche.
Alain, il a l'air sympa, il est souriant, donc on se méfie pas, mais ces questions, c'est les questions d'un killer, ce sont de véritables pièges.
Je n'aime pas les réponses superficielles des candidats, j'aime creuser, je ne vais pas lâcher sur les infos, et attention également à l'arrogance.
Bon, Alain Bozetti, c'est le kangourou qui tue, c'est ça ?
Oh, le kangourou qui tue !
Bah si, le killer !
Le killer kangourou !
C'est le kangourou qui porte des projets. D'ailleurs, on en a parlé, le prochain, c'est le 2 juin, le premier salon sur Internet pour les entrepreneurs, salon SME Online, vous êtes tous invités.
Le 2 juin ?
Le 2 juin, toute la journée, 9h-19h, partout en France.
Ah ben oui, c'est online !
Totalement, ah oui,
100% sur Internet, le premier.
Non, je dois reconnaître qu'en termes d'innovation numérique pour notamment l'organisation de ce type d'événements comme les salons, je suis assez bluffé parce que Alain Bozetti n'est pas en manque d'idées. Et comme disait d'ailleurs très justement Sylvain Rébi, ça marche. Hein. Bon, il y a deux candidats cette semaine, comme tous les ans, deux candidats par émission. Le premier s'appelle Thomas Boisserie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes venu nous raconter Loisirs en Chair, alors je me retourne vers vous dans un instant. Juste le temps de saluer Florian Breton, bonjour Florian.
Bonjour.
Et vous, c'est Mimosa avec deux i. Hein.
Exactement.
Alors, vous me direz pourquoi on a mis deux i à Mimosa,
c'est une nouveauté. Avec grand plaisir.
Allez, on commence avec Loisirs en Chair, une entreprise qui a vu le jour en avril 2014. Il y a l'idée de loisir, il y a l'idée d'enchère, Thomas. Bon, on va regarder d'abord le sujet qui a été réalisé en images vous concernant et vous m'en direz plus juste après.
Aujourd'hui, Salomé et son ami s'offrent un soin des pieds particulier. Des petits poissons viennent vous grignoter les peaux mortes. L'autre particularité de ce soin, c'est qu'il a été remporté aux enchères.
J'ai pu profiter de ce fichetin grâce à loisirenchères.com qui est sur mon téléphone portable. Dans la catégorie sud-ouest, je suis tombée sur ce spa que j'avais envie d'essayer depuis un petit moment. Je m'étais fixé un budget autour de 30 euros. Je l'ai eu au bout de 2-3 tentatives. Ça m'a permis d'en faire profiter une amie. J'ai déjà payé directement sur mon application.
Salomé fait partie des 100 000 clients de loisirs en chair, un site de e-commerce fondé par Thomas Boisserie il y a 2 ans.
Notre différence, c'est d'abord qu'on est un site de vente aux enchères de services. Ça, c'est unique en France. Et de services qualitatifs. C'est-à-dire que nous, on va dénicher des produits qu'on a vraiment envie de proposer à nos clients. Quand vous allez vous inscrire sur le site, quand vous allez enchérir sur le site, c'est gratuit. Ça ne nous engage pas à vous ne payer que si vous remportez l'enchère.
Loisirs en chair revendique plus de 400 partenaires, comme l'Institut qui s'est occupé des pieds de Salomé. Pour sa gérante, c'est l'assurance de nouveaux clients.
Ça m'a amené une clientèle supplémentaire qui représente à peu près 100 rendez-vous par mois, des gens qui ne seraient peut-être pas venus autrement et qui donc reviennent et même amènent des amis. C'est vraiment un point très positif pour mon institut.
Loisirs en chair compte lever 1 à 3 millions d'euros d'ici à la fin de l'année.
Cette levée de fonds, elle va nous servir à nous développer beaucoup plus rapidement, à faire des campagnes de publicité télé, mais aussi plus globalement la publicité sur Loisirs en chair pour que d'ici 5 ans, on soit dans le top 10 des plus grands sites de vacances en France.
En attendant, Loisirs en chair compte multiplier par 6 son chiffre d'affaires et vise les 6 à 10 millions d'euros pour son prochain exercice.
Voilà, c'était un sujet réalisé par Delphine Liu et Pierre Gélin. Donc je vais choisir le prix maximum que je suis prêt à mettre pour mes loisirs. C'est ça l'idée ?
L'idée, c'est de définir le prix que vous êtes prêt à payer pour vos vacances.
La plupart il n'y a pas que les vacances. Je peux aller me faire des soins des pieds avec des petits goujons, là.
Ou votre ticket, votre ticket de théâtre. Tout à fait, vous faire manger les pieds par des poissons. Votre ticket de théâtre, votre nuit en cabane en Dordogne. C'est extrêmement large.
D'accord. On va trouver tout ce type d'offres sur loisirs en chair. Il n'y a pas que les vacances. Hein. C'est tout ce qui peut constituer des loisirs.
Il y a Montgolfière en Vallée de la Loire aussi.
Ah ouais.
Oui.
Je sens que Eve est intéressée par cette offre.
Oui, j'ai fait une enchère.
Ça, ça peut aller jusqu'à votre semaine de vacances avec vol à New York.
Ok, alors j'ai cru comprendre que toute enchère démarre à 1 euro.
C'est le principe de base.
Attendez, vos partenaires qui vous. Tout ce qu'on peut acheter aux enchères sur le loisir enchère, c'est pas vous qui les avez créés, vous êtes une place de marché. Ça veut dire que des gens vous mettent à disposition des services, des week-ends, des vols, de la montgolfière au-dessus de je ne sais où. Le mec qui vous met une montgolfière, il a pas envie que son truc parte à 2 euros si à la fin des enchères c'est 2 euros.
Oui, bien sûr. Après, c'est là notre.
Il y a un moment, vous pouvez pas être sur un montant qui est complètement aberrant.
On va pas faire la mouche du coach tout de suite.
Non, mais je veux dire, voilà. Enfin, est-ce qu'on peut espérer faire des affaires, quoi?
Bien sûr, pour vous citer un exemple que je cite assez régulièrement puisque c'était il y a 3 semaines, une personne est partie à Marrakech, enfin ils étaient 2, pour 16 euros pendant une semaine.
À 2
en fait, ouais. À 2, ouais.
16 euros. J'ai vu une enchère 108 euros au lieu de 410 à Marrakech dans un riad.
Oui, tout à fait.
Quel est le taux moyen de réduction ou le prix moyen investi, par le budget moyen investi par les internautes?
En moyenne, ça va aller de. C'est une réduction de 40 à 70%. Je vais vous citer un exemple simple.
Allez-y, ouais.
Un hôtel. Prenez un hôtel, un bon hôtel. Dans l'année, il est rempli à 60%. Donc il fait son beurre avec ses 60%. Les 40% de chambres qui restent, même s'il est, loué à 1 euro, c'est 1 euro presque de profit direct.
C'est en
pour
plus.
D'accord.
Donc ça reste un circuit promotionnel. Ce qui fait que on est ce qu'on appelle un accompagnateur de yield marketing, de yield management, de la gestion du taux d'optimisation de ces hôtels. Ce qui fait que plutôt que de les mettre sur des sites d'achat groupé ou des sites étrangers qui sont souvent dont les sièges sont déposés au Delaware, ils vont peut-être potentiellement avoir envie de travailler avec une société française qui leur proposait une manière différente de vendre d'un point de vue promotionnel. Je me permets, c'est là que j'enchaîne en fait, c'est que la plupart du temps, en fait, quand vous achetez en promo sur le net, c'est des prix barrés, des pastilles moins 50%, c'est l'ambiance tête de gondole en fait. Et vous avez votre gîte et vous avez mis les mains à la pâte, vous avez retapé ce gîte-là et vous l'avez rempli à 100%, c'est pas mal. Les 40% des chambres qui restent, vous allez mettre sur des sites promotionnels, vous allez voir une pastille moins 50% dessus. Vous ne trouvez pas ça qualitatif. Donc vous allez potentiellement essayer de chercher des alternatives à ça et potentiellement loisirs en chair. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 90% de nos partenaires qui re-signent avec nous à la fin de l'engagement.
Donc vos partenaires, ce que vous nous dites, c'est que tant qu'à faire, ils préfèrent être référencés chez vous, et même si ça part pour pas cher, au moins c'est qualitatif, c'est en ligne avec leur état d'esprit, plutôt que de brader systématiquement et bêtement. Oui.
Tout à fait. Après, on n'est pas à l'abri d'une fluctuation. Nous, notre métier, c'est de savoir quel peut être le prix à laquelle l'enchère peut terminer. On va travailler ensemble au départ avec le partenaire, on co-construit le partenariat. Ça aussi, c'est une différence par rapport aux gros mastodontes qui sont les leaders du marché aujourd'hui. On va essayer de voir ensemble quel est le prix que vous souhaiteriez avoir.
On va vous retrouver dans un instant. Thomas, je me tourne vers Florian Breton, notre second candidat, pour faire connaissance avec lui à propos de Mimosa. Alors là, autant loisirs enchères, il y avait des loisirs, il y avait des enchères, autant de Mimosa, il s'agit absolument pas d'horticulture, hein. On est bien d'accord.
Vous êtes trompé, oui.
Quoique.
Ouais, quoique. Bon. En tout cas, c'est pas un fleuriste. Allez, on regarde tout de suite.
À Marcoussis, en région parisienne, Jean-Baptiste Hox fabrique de la bière artisanale. Il y a 4 ans, il veut moderniser son matériel et passe par le crowdfunding.
Le budget total du financement dont on avait besoin, c'était 230 000 euros. Donc après un emprunt bancaire, nos apports personnels, on n'avait pas assez et donc il nous manquait encore 10 000 euros. Donc on a fait appel à la plateforme de financement participatif Mimosa. On a eu 200 contributeurs qui ont permis d'obtenir 20 000 euros, donc 200% de notre objectif initial. On a pu financer entièrement notre projet initial et même autre chose par ailleurs.
La modernisation de la brasserie fait partie des 300 projets que Mimosa a aidé à financer. C'est Florian Breton, petit-fils agriculteur, qui a eu l'idée de lancer cette plateforme dédiée au monde agricole et alimentaire.
On peut représenter une alternative au secteur bancaire sur un petit projet de financement d'installation de développement où le projet est un peu risqué. On peut représenter également un complément de financement assumé par le porteur de projet qui va venir chez nous pour aller chercher autre chose, notamment la communication, développer sa notoriété. Et on peut représenter également un apport en fonds propres nécessaire aux porteurs de projets pour bénéficier d'un effet de levier et d'un accompagnement du secteur bancaire.
Mimosa vient de lever 700 000 euros pour développer sa plateforme et apporter de nouveaux services comme des assurances à bas prix.
Ce qui nous différencie de nos concurrents, au-delà de notre spécialisation, c'est l'important accompagnement que nous apportons aux porteurs de projets. Pour preuve, aujourd'hui, 80% des projets que nous accompagnons perçoivent un financement, quand la moyenne nationale est plutôt aux alentours des 55%.
Aujourd'hui, Mimosa a collecté un total d'1,5 million d'euros. Elle vise les 10 à 12 millions et plus de 3000 projets à l'horizon 2017.
Voilà, Mimosa avec Florian Breton. Alors d'abord, pourquoi il y a deux I à Mimosa? Parce que là, je me suis demandé... Mimosa avec un I, c'était pris.
Parce que déjà, entre autres, c'est un nom propre, donc c'est assez compliqué. Et puis au-delà de cela, on voulait jouer vraiment le côté un petit peu tech. C'est vrai qu'une célèbre marque de console s'en était servie pour une de ses consoles, justement. Et puis la deuxième chose, je me permets de faire voir le petit logo qu'on affichera plus régulièrement. C'est un M surmonté des deux I qui symbolise un agriculteur et un citoyen qui se tiennent la main.
Oh là là,
bravo, il fallait penser. Ça m'a coûté quelques nuits de réflexion.
Je reviens sur la définition de qui vous êtes. Hein. L'entreprise a vu le jour en novembre 2014. On a vu le sujet de Delphine New et Pierre Gélin à l'instant, site de financement participatif au profit de l'agriculture et de l'alimentation, en gros de proximité, je pourrais presque rajouter.
Exactement, ouais, tout à fait, c'est exactement cela. Alors, le constat que je faisais, alors il y a une part d'irrationnel, je suis moi-même petit-fils d'agriculteur, mais c'était vraiment basé sur quelques constats rationnels. Premièrement, fragilisation de l'agriculture française, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut citer quelques chiffres, 40% de nos agriculteurs perçoivent un salaire inférieur au SMIC, et près d'un tiers des ménages agricoles vivent sous le seuil de pauvreté, ce qui tend à une certaine rétractation aussi du secteur bancaire. Le deuxième constat, c'est qu'en dépit d'un marché en plein essor, le financement participatif, rappelons-le, c'est 300 millions d'euros en 2015, l'agriculture, c'était à peine 0,6% des projets proposés aux citoyens, en dépit du fait, et on touche au troisième constat, d'une vraie volonté, une vraie prise de conscience collective des Français de se rapprocher des acteurs d'une alimentation de qualité diversifiée et de territoire.
Alors, Florian, comment ça marche exactement Mimosa? Parce que c'est pas vraiment du crowdfunding, comme on l'entend, c'est un système de dons.
Oui,
si j'ai bien compris.
Mais c'est du crowdfunding, parce que vraiment l'ADN même du crowdfunding, c'est l'appel de la foule autour d'un porteur de projet.
Et crowdfunding, on l'entend surtout comme du prêt ou comme de l'apport en capital.
Ça peut être tout.
Tel qu'on l'entend généralement, c'est plus dans ce sens-là, c'est plus j'investis finalement, là, c'est du don. Hein.
C'est du don avec contrepartie en nature. Typiquement, alors sous l'angle du porteur de projet, il se tourne vers ses citoyens, vers des citoyens du territoire, c'est 70% du financement, notamment pour financer son projet. Mais du côté des citoyens, et c'est là qu'on touche au loisir, on en parlait brièvement tout à l'heure, il y a un sens déjà à soutenir un porteur de projet de territoire, mais même nationalement, c'est une possibilité pour les Français d'aller dégoter des produits du terroir reçus à domicile ou aussi d'aller préempter des contreparties comme des séjours à la ferme et des expériences inédites en famille.
Florian, si je donne de l'argent sur Mimosa et qu'en contrepartie je reçois des produits de la ferme, ça s'appelle un acte d'achat, ça. Enfin, je vais dire, redonner de l'argent pour recevoir un produit, c'est un acte d'achat.
C'est un système de troc, finalement.
Un acte d'achat, je troque de l'argent contre un produit.
Oui, sauf qu'au-delà de cela, il y a une vraie partie de dons et de philanthropie au-dessus. C'est-à-dire
c'est
que, par exemple, si on veut... Exactement.
Oui, le vainqueur de la BFM Academy 2015 a gagné, entre autres, grâce à du crowdfunding.
Exact.
C'est vrai.
Donc véritablement, c'est toute la dimension, sociale...
sociale, sociétale, environnementale, ouais. Économique, une vraie volonté de suivre. C'est pour cela que nous, notre positionnement, c'est vraiment de créer un mouvement citoyen, d'entreprise aussi, la RSE, et de collectivité territoriale. Et nous sommes les seuls en Europe... à faire cela sur le marché de l'agroalimentaire au sens large.
J'ai bien aimé cette formule dans votre dossier d'inscription. Nous voulons devenir le chevalier du mérite agricole. Bon. On va en rester là pour l'instant. Je vais passer la parole à mes deux camarades pour en savoir un petit peu plus sur nos deux candidats. Ils vont se tourner tout de suite vers Thomas Boisserie avec Loisirs Enchères, le e-commerce des loisirs aux enchères, ou comment vous allez choisir le prix maximum que vous êtes prêt à mettre. Allons plus loin avec nos deux candidats. C'est parti.
BFM Academy, saison 11, ils y croient. Mais croirez-vous en eux?
Voilà, cette semaine, F. Chégaré avec Alain Bozetti qui devra trancher en fin d'émission. Vous avez un petit peu moins de 9 minutes pour en savoir un petit peu plus sur Thomas Boisserie installé à Bordeaux avec Loisirs Enchères.
Thomas, dans votre dossier, vous écrivez que 65% de vos clients, les internautes, sont des femmes.
Oui.
Pourquoi, d'après vous? Et est-ce que vous avez plus ciblé le profil des clients qui jouent qui achètent sur Loisirs Enchères?
Alors déjà, c'est vrai que les femmes sont souvent prescriptrices dans le foyer des vacances et des loisirs. C'est elles qui vont plutôt acheter. Ce qui fait que chez nous, on est même maintenant à 70% notre clientèle sont des femmes de 30 à 45 ans.
Nicolas confirme que chez lui aussi, c'est sa femme qui lui cite des vacances.
C'est d'ailleurs dramatique parce qu'en fait, les mecs achètent les trucs sérieux et qui comptent, genre un appart, une voiture, et les femmes, elles achètent les vacances et les trucs à la con pour les gosses. Je ferme ma parenthèse.
Retour donc sur le marketing de vos clients et du ciblage, alors.
Oui, après, d'un point de vue marketing, on a un marketing... presque exclusivement digital, qui est fondé sur 95% de notre marketing est digital. On a fait de la communication dans le métro à Paris, en décembre, en janvier par exemple, qui a extrêmement bien marché, sur du voyage à New York, dont l'enchère de départ était 1 euro. On a envoyé à peu près 30 personnes là-bas en vacances. Ça a vraiment
pour
très, très
combien,
bien marché.
Pour combien en moyenne? Je ne sais pas si vous avez les chiffres en tête.
Alors, c'est un hôtel 4 étoiles sur Times Square, je ne citerai pas la marque, mais qui était vraiment très bien. Et la compagnie aérienne aussi était excellente. Ça partait en moyenne entre 1200 et 1600 euros pour deux personnes.
Au lieu de
2040 euros.
D'accord.
Donc ouais. c'était plutôt un franc succès.
Moitié prix, quoi.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Ce qui est génial.
Donc, les femmes, 35-45, votre cœur de cible.
30-45, oui, tout à fait.
Et c'est vraiment la population que vous voulez cibler encore majoritairement?
Alors aujourd'hui, en fait, on n'avait pas ciblé spécifiquement un âge ou un sexe, puisque le site est unique en France. Aucune équivalence, donc on a essuyé les plâtres, hein, concrètement. C'est vrai que souvent, quand on est dans cette rupture-là, c'est un peu plus complexe de savoir vers où on va. Et c'est progressivement, on s'est rendu compte que notre cible principale était les femmes. D'accord. Après, dans la nature des produits qu'on propose, comme on propose aussi pas mal de produits de soins, on l'a vu tout à l'heure avec avec les poissons voraces, il est possible que ce soit aussi des produits d'appel pour ce type de clientèle-là qui ensuite vont se... retourner vers des vacances.
J'ai une question page SAF, mais donc vous avez deux cibles, le grand public qui va acheter et puis les fournisseurs, les offreurs. Comment est-ce que vous trouvez qui va chercher convaincre les offreurs de vous rejoindre? Parce que une pub dans le métro pour le plus grand public, mais les autres, comment vous faites?
Donc les partenaires,
Alors, ça va être très souvent la curiosité de beaucoup de monde qui nous disent, mais qu'est-ce que vous leur dites à ces partenaires pour qu'ils aient envie de signer avec vous? Parce que vous allez lancer leurs produits aux enchères à 1 euro. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont pas avoir peur? Bon, on a notre recette interne qui est plutôt secrète, je dois vous l'avouer. Mm-hmm. Après, notre métier, c'est essayer de voir comment on peut faire pour... je vous donne un indice. Quand on a un produit qu'on va mettre aux enchères, en général, on ne sait pas à quel prix il va se terminer. Discutons avec un hôtel, revenons sur l'exemple de l'hôtel. L'hôtel va nous dire, écoutez, moi, je serais content si l'enchère partait à 50% du prix public. On va mettre une première enchère anormalement longue. Peut-être une journée ou deux jours sur une nuitée dans cet hôtel. On sait que ça va rencontrer énormément d'enchérisseurs et que le prix qui va être atteint va être proche des 100% du prix. À ce moment-là, l'enchère suivante, on va la mettre à la moitié du temps de la première. Puis, etc., jusqu'à qu'on obtienne en moyenne 50% de la durée.
D'accord.
Ce qui fait que...
Oh, ça y est, vous aurez...
Ça y est,
attendez,
c'est super.
C'est hyper technique.
Non, c'est très technique, en fait. Ce qui fait qu'en moyenne, on aura certainement à peu près 50%, ce qui veut dire que les moments où on aura moins d'audience sur le site, l'enchère va peut-être partir à 10% du prix, et d'autres, où il y aura beaucoup plus de monde, ça continuera à partir à 90%. Mais en moyenne, on sera à 50% du prix, puisque c'était la valeur qu'ils souhaitaient.
Wow. Donc en fait, on a intérêt
à y aller quand il n'y a personne chez vous.
La nuit. Tout à fait.
Alors, eh oui, la nuit.
Alors, figurez-vous que nos moments de pic sont entre 7h et 9h du matin et entre 11h du soir et 1h du matin.
Ouais. Bah oui, c'est
bah
ça.
Oui.
Alors moi j'ai une question sur la culture. Bon, en l'occurrence pour l'instant vous êtes en France, mais bon, je sais bien que vous êtes voué à vous développer. Mais on sait que par exemple eBay, avec son système d'enchères, a finalement pas prospéré en France et qu'il se retrouve à faire plutôt des annonces. Qu'est-ce qui fait que vous croyez à la place du système de l'enchère dans nos pratiques? J'imagine que vos bons résultats à ce jour vous aident à y croire, mais pourquoi miser sur les enchères, quoi ?
Alors, il y a deux choses. La première, c'est que il y a 8 ans, a été créé en Hollande un site de vacances qui aujourd'hui est leader là-bas des vacances. Ils font 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a un quart de la population qui est inscrite dessus. Ce site, je ne citerai pas le nom parce qu'il est imprononçable, mais ce site a pour particularité de vendre les vacances aux enchères. Ça, c'est une première chose.
C'est une source d'inspiration ?
C'était une source d'inspiration complètement.
En tout cas,
on s'est rendu compte que ça n'avait aucune équivalence en France. On s'est dit, à ce moment-là, c'était l'occasion de tester. La deuxième chose, il y a une étude du FC Que Choisir qui est sortie en décembre sur les rabais sur Internet, sur les grands sites de e-commerce. Ils en ont pris 10. Ils ont pris 3 produits différents, un téléviseur, un lave-vaisselle, et un four, un micro-ondes. Ils se sont rendus compte que sur les prix qui étaient affichés de promotion, de prix barré, on était entre moins 15 et moins 25% de réduction sur ces sites de e-commerce. Dans les faits, par rapport à la boutique à Pignon-sur-Rue, à côté de chez vous, en réalité, la réduction était de 1 à 5% maximum. Donc, pour conclure, je pense qu'on nous prend pour des saucisses et que ces prix barrés, la plupart du temps, n'ont aucun sens. Et c'était essayer de remettre au sens de tout ça et au cœur de tout ça, la loi de l'offre et la demande. Et finalement, quoi de mieux que la bourse ou les enchères pour ça?
Tout à l'heure, Thomas, votre réponse sur le mécanique pour convaincre les partenaires était extrêmement intéressante et nous a laissé tous quoi. Mais c'était pas la réponse à ma question que j'attendais. C'est comment est-ce que vous trouvez et vous arrivez à convaincre des partenaires en France et à l'étranger, à New York ou autre, d'abord, un, qu'ils vous connaissent et deux, qu'ils soient chez vous. Je comprends la mécanique après comment ça marche. C'est super intéressant. Mais au départ, comment vous faites? Vous avez des prospecteurs? Vous avez un call center? Comment ça se passe?
On a 5 dénicheurs chez nous. Ils sont 4 basés à Bordeaux pour la France et une personne qui est basée à Paris pour l'Île-de-France et qui passent leur temps à essayer de dénicher les meilleures offres qualitatives, et ça on insiste là-dessus, qualitatives qu'on va pouvoir mettre ensuite sur le site. On va discuter avec eux. On est une start-up, c'est-à-dire qu'on est basé sur un principe de test and learn. C'est-à-dire que nous, on les invite à tester avec nous sur un petit nombre d'enchères. Et s'ils sont satisfaits par les résultats qu'on peut avoir, à ce moment-là, on passe à l'échelle. Ce qui fait qu'on a certains partenaires avec lesquels on va avoir 1000, 2000, 5000 enchères.
Alors justement, en parlant de tester, parce que moi, ce qui m'intéresserait, c'est de tester des riades à Marrakech pour loisirs enchères, par exemple. Vos 5 dénicheurs, là, ils vont tester les lieux? Ils savent ce qu'ils mettent sur le marché?
Figurez-vous que même en septembre l'année dernière, on a recruté une personne qui s'appelle Marine, qui était testeuse professionnelle et qui a testé l'ensemble de nos offres sur le site. Pendant 4 mois...
C'est pour ça aussi.
Oh, quel diable!
C'était génial, elle a sauté en parachute, elle a fait la plongée sous-marine, elle s'est fait masser, elle a pris des brunchs à Montmartre, elle est partie à Marrakech tester les riades.
Mais est-ce qu'elle a fait la vallée de la Loire en montgolfière?
Je crois qu'elle a fait, ouais.
Bien beaucoup.
Donc oui, on essaie de tester quand on a le temps. Après, malheureusement, un job comme ça à temps plein, pour l'instant, on n'a pas les moyens de se l'offrir. Donc, on fait confiance.
Mais vous testez globalement,
quand
même.
Oui, bien sûr, tout à fait.
Bon, 1,7 million d'euros de chiffre d'affaires pour le premier exercice, alors un peu allongé sur 21 mois, mais vous attendez 8 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année et des profits dès cette année, avec l'ambition donc de faire de loisirs enchères l'un des sites qui sera dans le top 10 des grands sites de tourisme. Tiens, juste une petite question, le gars qui a dit j'ai gagné l'enchère, qui veut plus payer là, qu'est-ce qui se passe?
Ouais, alors
vraiment là c'est en un mot parce que j'ai la musique qui tourne déjà.
Oui, bien sûr. La personne qui veut pas payer à la fin, c'est ça?
Ouais.
En fait, on n'a pas de moyens coercitifs vraiment de le faire. Donc on le relance. On relance bien entendu. Mais maintenant, pour les grosses enchères, vous pouvez rentrer. Vous devez avoir un maître, comme pour n'importe quelle enchère, un dépôt de garantie. Voilà, c'est ça.
On marque une pause. La suite de cette BFM Academy dans un instant avec Mimosa, Florian Breton. On vient d'avoir tous les détails sur loisirs enchères avec Thomas Boissery. À tout de suite.
BFM Academy saison 11, le 20 juin. Il n'en restera qu'un. BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprise. BFM Academy, saison 11, avec Nicolas Dose.
BFM Academy avec cette semaine F.C. Garret et Alain Bozetti qui va devoir trancher dans quelques minutes. Je vous rappelle que le match aujourd'hui oppose Thomas Boisserie avec Loisirs Enchères, le e-commerce des loisirs aux enchères. Vous allez choisir le prix maximum que vous êtes prêt à mettre et chaque enchère démarre à 1 euro. Et en face de lui, Florian Breton avec Mimosa, Mimosa avec 2i, le premier site de financement participatif de l'agriculture et de l'alimentation. Et son objectif est tout simplement de devenir le chevalier du mérite agricole. F. Chegaray, Alain Bozetti, oui. Vous avez un peu moins de 9 minutes pour terminer,
oui, Nicolas Dose.
D'explorer tous les contours de Mimosa.
Alors, moi, j'ai une question qui me taraude depuis même le casting. C'est quelle idée de quitter une belle carrière dans les médias, d'ailleurs, pour aller vous mettre au service des agriculteurs. Non, mais franchement, en vrai, juste entre nous.
Franchement, en vrai, c'est la part d'irrationnel et d'émotionnel que j'évoquais en introduction. C'est vrai que j'ai des racines agricoles, que j'ai grandi dans ce milieu, en profond attachement sincère à l'agriculture française, au territoire, à la ruralité, à nos campagnes. Et aujourd'hui, c'est un constat que je faisais, mais un constat partagé, cette fragilisation. Et cette idée de créer une plateforme est même venue en 2010. Donc j'attendais que le marché du financement participatif se développe en France. Et j'attendais aussi que cette prise de conscience citoyenne, notamment témoignée par l'essor des circuits courts en France, puisse prendre son ampleur afin de faire matcher un petit peu cette volonté et ce besoin.
Bon, j'aurais une question sur les circuits. Je continue.
Vas-y.
Parce que c'est une vraie question. C'est quand même un truc dingue de quitter un job qui va bien, ou même si on peut avoir de la lassitude, etc., pour se lancer. Parce que là, vraiment, vous innovez et vous défrichez complètement. Et moi, j'ai une question, c'est que dans votre dossier, et puis en vous écoutant, bon, vous êtes un entrepreneur militant, ça, on l'aura compris, vous nous dites que... Enfin, vous faites un lien, je trouve, hyper direct entre il y a un intérêt des Français, donc ça va marcher.
Oui.
Et comment vous mesurez cet intérêt ?
On mesure assez simplement. Bon, on parlait tout à l'heure un petit peu des circuits de proximité. C'est quand même aujourd'hui quasiment 15% de la distribution alimentaire en France. Donc c'est vraiment un réel essor. Et puis nous, on juge assez simplement sur la plateforme. Aujourd'hui, dans le financement participatif, sur le modèle du don et contrepartie en nature, la contribution moyenne des Français, c'est 55 euros. Sur notre plateforme, elle est de 110 euros. Les gens donnent en moyenne 110 euros sur la plateforme. Et au-delà de cela, il y a des vrais écosystèmes, des vraies communautés territoriales qui se créent avec de la vraie récurrence dans le soutien des projets des territoires. Et on réussit aussi à fédérer des entreprises, des toutes petites entreprises qui sont tout simplement les fournisseurs de nos agriculteurs, les distributeurs, les chefs, les restaurants, etc. Donc il y a de vrais écosystèmes qui se créent dans les territoires, qui créent cette récurrence et cet engouement autour du financement de nos agriculteurs et entreprises alimentaires.
Florian, même type de question que pour Thomas, parce que vous avez le même principe, vous avez à la fois vous cherchez des donateurs et vous cherchez des agriculteurs.
Bien sûr.
Expliquez-nous comment, j'ai pas vu de campagne de pub dans le métro.
Non.
Comment est-ce que vous trouvez les deux cibles que vous visez? Et qui visez-vous, notamment au niveau des donateurs en particulier? Donc il y a deux questions dans ma question, mais qui visez-vous et comment vous faites pour trouver les deux?
Alors comment on fait pour trouver les deux? Tout simplement pour trouver les porteurs de projets. C'est vrai qu'on pourrait s'apparenter un petit peu à une activité B2C, donc qui consomme du cash, c'est vrai. Or, en fait, notre approche depuis le début, elle est totalement singulière dans le marché du financement participatif, elle est B2B, B2C, c'est-à-dire que dès le départ, on allait fédérer le monde agricole, les organisations professionnelles agricoles, les syndicats, les chambres d'agriculture, les interprofessions, les fédérations, etc. Une banque très connue dans le monde agricole, justement pour mettre tout le monde autour de la table, un petit peu, de signer de conventions de partenariat afin, avec moins de cash, finalement, d'exister par leur voix dans les territoires. Aujourd'hui, les chambres d'agriculture, par exemple, par leur voix, prescrivent, recommandent et redirigent des porteurs de projets vers la plateforme. Donc ça, c'est sur l'angle comment trouver des porteurs de projets. Mm-hmm. Ce sourcing de projets, c'est là le potentiel de marché aussi pour nous. C'est à peine aujourd'hui 30% des projets que nous accompagnons. Tout le reste, parce qu'on touche à un sujet sociétal qui intéresse le grand public et notamment les rédactions, c'est notre notoriété qui fait que 70% des projets arrivent sur les plateformes et qu'on est extrêmement bien référencé. Pour la partie contributeur, faut savoir aujourd'hui qu'un agriculteur prioritairement va s'adresser à son réseau de connaissances directes. Et un agriculteur, c'est un petit écosystème de réseau localement. Ses fournisseurs, j'en parlais, ses distributeurs, ses amis, sa famille.
Un écosystème sous tension quand même.
Un écosystème sous tension, mais qui est interconnecté à l'agriculteur. Il faut rappeler aussi qu'un agriculteur, c'est 7 emplois aujourd'hui, de l'amont à l'aval. Donc il y a un réel impact dans notre activité.
J'ai une question, Florence, sur quand vous dites nous, nous, chez Mimosa, c'est qui, quel job? Parce que qui fait ça? La France est quand même grande.
La France est
ça
grande.
Ça fait un paquet de monde à aller
alors
voir.
Alors nous, c'est une équipe déjà de 11 personnes qui est structurée sur 4 pôles. Direction technique, communication, partenariat, activation territoriale et projet. Un peu le front office avec nos agriculteurs et entreprises alimentaires. Et puis au-delà de ça, nous, c'est nos partenaires. Et nos partenaires, cette année, ce qu'on développe, et elle est là aussi l'approche innovante de notre plateforme, c'est une offre RSE. On va s'adresser aux entreprises nationales,
aux
grandes entreprises. Il y en a énormément qui nous ont sollicité, justement, parce que c'est une demande des salariés, c'est une demande des actionnaires, c'est une demande des consommateurs. Dans les études conso, c'est vrai que l'agroalimentaire peut avoir une mauvaise image de temps en temps, parce que on bouffe un petit peu les marges. Et ces entreprises-là, dans le cadre de leur politique RSE, viennent cofinancer. Et même, approche encore innovante, les collectivités territoriales. Le département de l'Eure, c'est une initiative totalement singulière, finance à nos côtés tous les projets de l'Eure à hauteur de 1 000 euros que nous accompagnons sur le territoire.
J'ai encore deux questions, Florian. La première, vous prenez entre 8 et 12% de taux de commission.
Tout à fait. TTC.
Est-ce que c'est dans la norme des taux de commission des plateformes de crowdfunding en France ou dans le monde?
Alors,
ou est-ce que c'est au-dessus?
En France, en fait, la moyenne, enfin, dans le don et contrepartie en nature, ce qui est très répandu, c'est le modèle du tout ou rien. Soit vous atteignez 100% de l'objectif, et dans ce cas-là, la moyenne de la commission est à 8% TTC, soit vous repartez sans rien. Ce qui crée une frustration pour les porteurs de projets. Faut pas se leurrer, il y en a beaucoup qui arrivent à 60-70%, ils font eux-mêmes l'avance pour débloquer la collecte. Nous, on a souhaité penser le financement participatif comme un complément de financement qui active des effets de levier, notamment vis-à-vis des banques. Donc, du coup, on a une jauge qui est activable, une collecte qu'on peut obtenir à partir de 60%. Et donc, on a des commissions dégressives qui vont de 12 à 8%.
On peut prendre un exemple? Oui.
On peut prendre un exemple, tout à fait.
Rapidement,
tout à fait, par exemple.
Rapidement.
J'ai l'exemple notamment d'une jeune chevrière dans le Lot-et-Garonne qui dernièrement est passée par notre plateforme pour obtenir un fonds propre, apporter un fonds propre à sa banque qui était justement frileuse et qui est repartie seulement avec 60% de son objectif de collecte. Donc là, la commission à la source était de 12% TTC, mais néanmoins, il y a eu derrière un vrai effet de levier, c'est-à-dire que la banque a suivi. Et en plus de cela, il faut pas oublier qu'en agriculture, ce qu'on finance souvent, c'est du matériel, du cheptel, du foncier, des approuves. Et obtenir 60%, c'est 2 serres et pas 3, c'est 5 vaches. Je ne sais pas 6, etc. etc.
Et je voudrais parler du futur brièvement.
Oui.
J'ai vu que vous projetez de vous implanter en Espagne, en Italie,
en
Pays-Bas. Est-ce que votre futur, c'est de faire Mimosa dans d'autres secteurs, par exemple l'artisanat, et pas seulement l'agriculture, ou est-ce que vous souhaitez rester foncièrement sur, sans jeu de mots, l'agriculture et vous développer en Europe?
Non, on sera sur l'agroalimentaire, mais au sens petit. Voilà, vraiment les petits projets agricoles agroalimentaires et de première transformation, brasserie artisanale, distillerie.
France et Europe.
C'est-à-dire qu'en fait, les problématiques liées notamment à l'agriculture, la fin des quotas, l'embargo russe, etc., les tensions géopolitiques sont interconnectées entre les pays. Et aujourd'hui, on a beaucoup de demandes qui arrivent, notamment des politiques, des banques et aussi des porteurs de projets de pays limitrophes. La Belgique, l'Italie, c'est 75% d'agriculture familiale.
Ouais.
L'Espagne, c'est 85% d'agriculture familiale. Tous les pays du sud de l'Europe ont cette dimension très, très familiale de l'agriculture et de l'agroalimentaire. C'est seulement les pays du nord qui ont pris le virage de l'agro-industrie. Et nous, on est engagés, au bon sens du terme, et pour défendre cette agriculture porteuse de sens.
Voilà, cette semaine, vous choisissez entre le fait d'investir près de chez vous pour le bien commun avec Mimosa ou le fait de fixer le prix maximum que vous êtes prêt à mettre pour vos loisirs avec Loisirs en Chair. Alors, on en sait un peu plus sur nos deux candidats. Changement de décor, c'est la mouche du coach.
BFM Academy, la mouche du coach.
Il s'appelle Thomas Boisserie, il est installé à Bordeaux, Loisirs en Chair, le e-commerce des loisirs aux enchères. Tout démarre à 1 euro, on peut visiblement y faire de très très bonnes affaires. Il veut être dans le top 10 des sites touristiques à horizon 5 ans et il attend 8 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Avec des profits, ils sont déjà 20. Voilà, la mouche du coach, F. Chégaret, Alain Bosetti, on y va, qui commence?
Ils sont déjà 20 et ils veulent être 50 bientôt. Ah ben non, c'est honneur à Alain aujourd'hui.
Merci, donc. Je suis très séduit. Très séduit parce que je trouve que Loisirs en Chair amène une disruption avec le côté addictif et le côté ludique, compétition. J'ai regardé, enfin, c'est très marrant.
Ouais, c'est marrant.
On voit bien ça. Donc c'est un groupe ludique. L'ergonomie fonctionne bien, ça marche bien, il y a des bonnes affaires. Effectivement, moi, j'ai encore hier soir, Marrakech est parti pas cher, etc., etc. Dans là où je pense qu'il y a des pistes de progrès possibles, ça va être dans la communication, tout ce qui est identité. Identité visuelle. Bon, le nom loisir en chair, c'est une marque très descriptive. L'avantage, c'est qu'on comprend ce que ça veut dire, mais c'est pas une réelle marque. Il y a le petit picto à côté qui dit le marteau ici acheté en chair en local. Je trouve, j'ai pas, enfin,
tout simplement. Moi, j'avais pas compris que c'était un marteau.
Ah
non, je surjoue.
Non, je trouve que c'est. Je ne suis pas certain que ce soit un grand designer qui ait créé cette identité. Sur l'appli mobile, qui est très bien. C'est pas très lisible, je trouve, au niveau des textes, sont pas très lisibles. Je trouve qu'il y a des progrès en communication, non pas dans les médias, mais dans les messages que vous envoyez à vos clients. Et j'aimerais voir plus également des bénéficiaires. Alors, un truc que je trouve super, par exemple, c'est votre blogueuse, là, qui est
Marine, oui.
Marine, qui a fait le tour du monde, il y a le blog Le plus beau job de France, c'est très sympa, c'est super. En revanche, moi, j'aimerais bien voir des touristes ou des clients qui ont profité du tour de Baudet en Vendée et qui disent que c'est super, qu'ils ont profité, etc., etc. Vous voyez, ça manque. Voilà. C'est, en communication, j'aimerais un peu plus de personnalité et de clarté, et j'aimerais plus de clients qui s'expriment.
Alors, sur la lisibilité, le branding d'un côté, réaction donc de Thomas, et puis peut-être les testimonies à la fin.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'aspect du nom.
Il est d'accord, son appli est nul.
sur le nom, je suis d'accord avec vous. Il est vrai que on voulait être très clair, comme le port salut. Ça, voilà, c'est marqué dessus. C'est un concept assez original, et on voulait vraiment que les gens puissent comprendre, dès le nom de la marque, ce qu'il y a à l'intérieur, en fait.
En tant que créateur du centre des services à la personne, je comprends.
Ensuite, par rapport au design, il a déjà évolué. Et on a comme philosophie de se dire qu'on a des intuitions, mais on n'a pas de certitude, et qu'on va créer quelque chose qu'on va appeler, dans le jargon, « quick and dirty », un peu rapide et moche, au départ. Le premier site était vraiment...
Très quick et très dirty.
Plus dirty que quick.
C'est ça. Et ensuite, on fait de l'A-B testing. C'est-à-dire que ce sont nos utilisateurs qui vont nous dire ce qu'il faut qu'on améliore. Ce qui fait que toutes les personnes qui remportent des enchères chez nous, on les appelle pour les féliciter.
D'accord.
Par téléphone et pour connaître leur avis sur le site et savoir comment on l'améliore. Ce qui fait que ce que vous voyez aujourd'hui du site, c'est une évolution, enfin, c'est une photographie à l'instant T de ce que les clients ont pu nous faire remonter comme amélioration. Ce qui veut dire aussi que peut-être d'un point de vue de l'aspect qualitatif, peut-être que là-dessus on a un travail à faire, et je pense que c'est là-dessus aussi que vous me lancez une perche. Il est vrai que là-dessus on va travailler peut-être pour créer deux marques différentes sur des ce qu'on appelle les enchères de rêve chez nous, plutôt de luxe.
D'accord.
Du premium.
Voilà, par exemple. Mais il faut quand même qu'on puisse encore donner l'impression que c'est du grand public.
En 5 secondes et une phrase, je trouve que vous n'avez pas la marque aujourd'hui, le branding aujourd'hui, à la hauteur de votre ambition d'être le leader en 10 ans.
Voilà. Non. Et d'accord. Comment on dit loisir en chair? Ça s'est dit comme ça, loisir en chair.
Loisir en chair.
1 minute 30 à me cigarer à la bouche du coach.
Ça va être un client de l'agence en personne. Énorme. Alors, moi, j'ai des commentaires sur l'entreprise elle-même. Parce que je ne vous cache pas, j'adore cette formule, je ne vous cache pas que quand j'ai reçu votre dossier, ce qui m'a accroché, c'est autant votre proposition de valeur. Je découvrais Loisir en chair, j'étais pas tombée dessus, avant. Donc, je découvrais Loisir en chair et je découvrais l'entreprise. Et je me suis dit, mais c'est honteux, une boîte aussi sympa. C'est pas possible. C'est pas possible que ça existe. Ils sont déjà 20 au bout d'à peine plus d'un an, puisque le dossier remonte à quelques mois. Ils recrutent comme ça. En plus, ils font des parties de foot presque tout le temps à la mi-journée, ou je sais plus, c'est à pause de 16h. Un jour, j'appelle Thomas Boisserie. Je tombe sur lui super essoufflé. Je dis, je peux rappeler plus tard. Non, c'est juste notre partie de foot quotidienne. Je dis, ouais, c'est insupportable. C'est moi, tout le monde s'éclate, c'est énervant à la fin. Non, mais c'est vraiment super, mais merci de faire des entreprises comme ça. Alors, vous venez de complètement autre chose de l'industrie culturelle, je ne sais pas si on dit ça, enfin, vous êtes occupé entre autres d'un musée à Bordeaux, vous étiez à l'étranger pendant 5 ans avant. Donc, voilà, tout est possible dans le monde des startups. Voilà, je voulais juste saluer ça, je trouve ça absolument génial. Et j'ai quand même une suggestion. C'est un petit peu énervant que vous soyez tous jeunes et beaux et en train de faire du foot tous les jours. J'ai une suggestion, c'est adopte un vieux. Voilà, il est temps, ou une vieille, hein, voilà. Il
est temps d'avenir.
Il est temps dans les start-up. Non, mais ayez une star, ayez une mascotte, quoi. Il y a, moi, je connais des femmes, la quarantaine et quelles, qui pourraient aller tester les riades à Marrakech pour vous. Enfin, j'ai des suggestions comme
Thomas,
ça.
Thomas, adopte un vieux, 8 secondes pour répondre.
On va y réfléchir. Et si c'est un message que vous m'envoyez, Eve,
vous pouvez accéder à
un job,
un job d'été.
Je me sens concerné à force en plus.
Bah oui,
Nico. Bon. Deuxième candidat cette semaine, c'est Florian Breton. Ils ont 33 ans tous les deux, à l'âge du Christ. C'est dit.
L'âge du Christ, l'année de ses 33 ans.
On a coutume de dire. Bon. Il est venu nous présenter Mimosa, le site de financement participatif de l'agriculture et de l'alimentation. Le financement avec tout l'aspect donation, près de chez soi, proximité. Donc plein de significations. Mouche du coach, on commence par notre ami Alain Bozetti.
Florian, bravo. Parce que vous faites de la microfinance pour un type de projet qu'on ne voit pas forcément, qui sont à part dans le journal de 13h de Jean-Pierre Pernaut, avec lequel vous pourriez d'ailleurs avoir une. Mais vous défendez des valeurs qui vous sont propres par votre histoire. Je trouve que le style, le ton, vous n'êtes pas du tout dans la plainte de l'agriculteur qui va bloquer les autoroutes ou amener des tracteurs, etc. Et vous êtes dans le positif. Vraiment, moi, je trouve ça. Je me sens en phase avec ces valeurs-là. Comme c'est la mouche du coach, il y a ce qui vous manque,
faut
à mon avis.
Faut taper, alors, faut taper.
Ouais, j'ai du mal à taper, surtout quand j'apprécie les projets. Mais ce qui manque aujourd'hui, c'est la dynamique. D'accord? Le momentum, la dynamique. Et je pense que c'est-à-dire, il y a un nombre de projets, mais il y en a encore peu quand on fait les projets plus bien, il y en a encore relativement peu. C'est normal, vous avez une jeune boîte. Je pense qu'il y a trois points peut-être qui pourraient vous aider. Le premier, c'est de clarifier plus clairement le message. Je vous donne deux exemples. Bien sûr, le crowdfunding, c'est de plus en plus connu. À Paris, d'accord? Et dans les startups, c'est pas, tout le monde connaît pas dans les provinces, dans les régions, et même à Paris, tout le monde connaît pas le crowdfunding. Donc, et par exemple, quand on veut savoir ce que vous faites, on tombe sur un FAQ, et franchement, c'est imbitable. D'accord? Donc, dans le slider, c'est bien beau d'avoir les vaches pour le food truck, etc., etc., mais expliquez ce que vous faites, comment ça marche.
Il faut jamais surestimer ce que les gens savent vraiment, hein. Sarkozy, c'est pas le bon coin,
On est trop dans le côté parisien, etc. Deuxièmement, vous pourriez avoir, pourquoi c'est dynamique, une égérie. Alors, si Jean-Pierre Coff était toujours de parmi nous, eh bien, il pourrait être là, parce qu'il pourrait dire, ça, c'est pas de la merde, allez-y, d'accord? Mais quelqu'un comme Thierry Marx, par exemple, quelqu'un qui est crédible, qui peut entraîner, qui est connu, je pense qu'une égérie pourrait aider à cette dynamique. Et puis, troisièmement, liez plus le côté, dans votre communication, le côté physique dans la vraie vie et le côté Internet. Ouais. Bien sûr, on est au final, il y a un camion qui va se déplacer, un apiculteur, etc., etc. Mais bien plus sûr. Avoir le mélange réel-virtuel.
Alors, déjà la récurrence. Il y a aussi une innovation qu'on compte mettre en place, c'est retravailler la plateforme de telle sorte à créer cette récurrence et cette fidélité. Comment ?
Oui.
En axant le développement de la plateforme aussi autour des bons plans du moment, des expériences à la ferme. Donc avoir un angle touristique, un petit peu de l'économie sociale et solidaire, mais sous le prisme des bons produits, des bonnes expériences inédites que nous avons sur la plateforme. Et ça, c'est un potentiel de lead pour nous et de croissance qui est important. Et en plus, on apporte une réelle solution aux besoins de nos agriculteurs par ce cercle finalement des inconnus. Ensuite, le côté un petit peu trop parisien, crowdfunding, etc. N'oublions pas que nous, sur notre plateforme, on s'adresse quand même à un public très particulier de territoires, de campagnes, et 75% de nos contributeurs sont dans les territoires. Donc on n'intéresse pas juste un microcosme parisien, un petit peu bobo qui souhaite, etc. Mais tout simplement parce que nos porteurs de projets s'adressent aussi à leurs connaissances directes. Et où sont-ils ? D'accord. Dans les territoires. Après, sur la partie égérie, donc on vient de clôturer notre première levée de fonds, donc c'est des choses que nous allons mettre en place. On va se rapprocher, bien évidemment, des acteurs qui subliment notre agriculture. Les chefs en font partie. Ouais, les restaurants dans des villes, par exemple, qui pourraient événementialiser les porteurs du projet du territoire transformé par un chef, justement, pour faire de l'appel à contributeurs, justement, pour événementialiser cela
réel, virtuel.
Et créer un tour de France aussi pour fidéliser et développer cette communauté territoriale autour des agriculteurs et des entreprises alimentaires. Donc c'est vraiment des axes de réflexion que nous avons et que nous souhaitons mettre à l'échelle.
Eve Chégaray.
Alors moi, je suis tellement convaincue par Mimosa que j'ai voulu tester et j'ai voulu donner.
Bah oui. 110 euros.
Donner. Alors, j'ai donné à un monsieur qui veut réintroduire la culture de l'olivier sur le plateau du Quercy, qui est une cause que je trouve formidable. Et au moment de donner, je me suis dit, bon, allez, je peux bien mettre 100 euros pour le gars. Et puis finalement, ça me propose de commencer à 15 euros. Oui. Donc, j'ai mis 15 euros lâchement.
Il fallait descendre un petit peu.
Et je me suis dit, je trouve que là, il y a un... on m'aurait mis une petite phrase, pas culpabilisante, mais incitatrice, ouais, etc. J'aurais mis les 100 euros que je pensais mettre au
si
départ.
Si tu cliques là, t'es un salaud.
Bien sûr.
Ouais, voilà.
Si tu cliques là, t'es
bien
sympa.
Donc, il y a peut-être un truc. Et du coup, là, et ça fait un mois que je l'ai fait. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais, en venant enregistrer avec vous, j'aimerais savoir ce qui vient avec ces oliviers. Et puis, si on me redemande régulièrement de remettre au pot pour lui, si c'est
la fidélité,
voilà.
Bien sûr, la fidélité. Ça, alors, ça aussi, c'est quelque chose qu'on va développer. Déjà, vous n'avez pas de nouvelles de lui pour le moment? Bon, on va le relancer. C'est aussi quelque chose, un vrai pôle qualité qu'on va développer sur la...
Une semaine après, enfin,
ouais, d'accord.
J'ai
une bonne nouvelle aussi. On a un nouveau producteur d'huile d'olive qui vient d'arriver à côté de Béziers. Donc, vous pouvez découvrir son formidable projet, les fines de Garrigue. Voilà. Sinon, quand vous cliquez sur 15 euros, oui, vous avez tout de même une étape intermédiaire, vous ne l'avez pas dite peut-être, où vous pouvez donner 100 euros. Et ça arrive régulièrement. On a aujourd'hui quasiment un tiers de nos contributeurs qui choisissent la plus petite contrepartie et qui, sur l'étape intermédiaire, prennent le choix justement de la vraie philanthropie et mettent 300, 400, 500 euros.
Alors,
on va développer bien évidemment aussi cette partie pour... créer de la récurrence.
Dans quelques instants, Alain Bozetti va devoir choisir entre Loisirs Enchères et Thomas Boisserie face à Mimosa avec Florian Breton. Il faut faire fissa parce qu'on est à la bourre, Eve. Mais on va quand même dire un mot des deux derniers candidats. C'est la cinquième émission la semaine prochaine de cette première partie de la saison 11 de la BFM Academy. On aura donc deux candidats qui seront arbitrés par vous, si vous déciderez. Il y aura Digifood face à Pop Valley. Alors, Digifood, un mot.
Digifood avec Ronald Gautruche, c'est le moyen dans les stades et puis à terme les salles de concert, etc., de commander sur son appli Digifood son popcorn, son hot dog, son coca, sa bière, ce qu'on veut, etc., et d'aller les chercher à la buvette sans faire la queue ou qu'on vous les amène à la place dans le stade, dans les gradins. C'est révolutionnaire et génial. Et Pop Valais, c'est super aussi. C'est enfin des voituriers dans les grandes villes et puis Sky is the limit. Donc ils ont un t-shirt jaune, ils sont repérables, ils ont une trottinette, ils vous mettent votre voiture au parking et au parking ça vous coûte moitié moins cher.
Yes, c'est l'heure du terrible choix avec Alain Bozetti.
BFM Academy. Le choix du coach.
Loisirs Enchères, Mimosa, allons-y Alain.
Bon, le moment que je déteste, mais vous avez le même âge, ça a été souligné. Vous avez des parcours parallèles en termes de formation avant d'entreprise. Vous avez tous les deux créé une entreprise avec une idée, entre guillemets, disruptive, ajouté le côté enchère, et vous, en vous centrant, Florian, sur pour les loisirs, l'enchère enchère, et vous, Florian, en ajoutant sur le secteur agriculture, alimentation. Vous surfez tous les deux sur des tendances fortes depuis longtemps. Les loisirs d'un côté, l'envie de se réconcilier avec des producteurs locaux, et puis de mieux manger plus sainement. Je ne peux pas choisir comme ça, c'est pas possible. Donc je me suis dit, il y a deux critères. Mon choix de cœur, ce serait Mimosa. Mon choix plus business en termes de dynamique, parce que je pense que la dynamique est plus engagée, c'est Loisirs Enchères. Comment choisir vous êtes dans un concours. Dans un concours, je me dis, quel est celui qui a le plus de chances d'aller en finale et de remporter la finale? Et à mon avis, celui-là, selon moi, c'est celui qui a la plus forte dynamique aujourd'hui, dont je retiens Loisirs Enchères.
Merci Alain.
Voilà. Donc, Loisirs Enchères vient rejoindre Julie Vess.
Désolé Florian, c'était ravi de vous choisir tous les deux, mais bon.
Médavise et Tilki qui sont les quatre, qui sont encore en lice pour la suite de la saison. Et donc, la semaine prochaine, on en aura un cinquième. Et c'est cette fois-ci Eve Chégaray qui choisira.
Avec un invité,
on vous en dira plus. Allez, à la semaine prochaine.
BFM Academy saison 11, le 20 juin. Il n'en restera qu'un.